Pau la reine, la mule. Sitôt que la source coula, conscient du repos mérité et fier d'avoir mené à bien ce travail de fontainier rustique, je descendis chez mon voisin. J'aime beaucoup aller perdre ainsi une heure ou deux chez mon voisin, pour lui d'abord, et aussi à cause de sa maisonnette. Mon voisin, j'aurais tout de suite fait son portrait lorsque j'aurais dit qu'à 70 ans passés, sec et solide comme un cep, il ne se connaît pas d'ennemi, étant toujours resté le plus honnête du monde, heureux d'offrir au premier qui passe un verre de son meilleur vin et de lui indiquer au besoin, quoique chasseur mais point jaloux, le lièvre dont il sait le gîte. Vous trouvez comme cela des paysans qui, sans qu'on le leur apprenne aux écoles, ont, toute naturelle et simple, une courtoisie de grand seigneur. À ce métier, mon voisin si froid a oublié de faire fortune. Qu'importe, il vit heureux dans sa maisonnette, et sa maisonnette est si jolie. Si froid ne la construisit point, mais celui qui la construisit semble avoir deviné ses goûts. C'était un héros de l'Empire, parti simple soldat, ainsi que tous les héros, et revenu au pays manger sa retraite avec les épaulettes de gros major. Il avait fait toutes les guerres, des pyramides au Kremlin. Pourtant, les jeunes victoires d'Italie restèrent, paraît-il, surtout chères à son souvenir. De là, autour de l'asile doucement triomphal qu'il voulut se créer, une profusion de lauriers et de myrtes, les uns symbolisant la gloire, les autres symbolisant l'amour, et devant sa façade décorée à fresque d'emblèmes galants ou guerriers, une superbe treille en terrasse montée sur des piliers de pierre, comme on en voit dans les villes de Toscane et du Milanais. Peu sensible à la solennité des fresques qui, d'ailleurs, allaient s'effaçant, le bon Sifroid, âme ingénue, avec un peu de vague instinct poétique, trouvait que ces arbres étrangers, toujours feuillus et toujours verts, constituaient un agréable ombrage et que la treille était commode pour boire au frais, en compagnie. Ainsi, après la mort du gros major, ayant acquis la maisonnette et quelques garrigues attenantes, Sifroid se garda-t-il d'y rien changer, malgré les protestations de sa femme, Phrasie, personne plutôt économe, laquelle estimait, elle eut encore, à cause des raisins, admis la treille, que tant de lauriers et tant de myrtes tenaient bien de la place inutilement. « Bah !» répondait Sifroid, « ce n'est pas la terre qui manque, il en reste assez pour nous nourrir tous deux. » Et le bon Sifroid, en effet, trouva moyen de fertiliser les garrigues. Il en fit des prés et des vignes, et bientôt, l'aisance le lui permettant, il put, toujours au profond désespoir d'Euphrasie, offrir à ses amis de temps en temps, comme le gros major, un petit dîner sous la treille, avec l'ombre des lauriers et des myrtes, pour la sieste d'après-midi. Phrasie se plaignait souvent qu'on lui refusât voir au chapitre, l'humble domaine en grande partie ayant été payé avec les écus de sa dot. « Tais-toi, boiteuse !» disait Sifroid. « Ou sermonne-moi, montez sur ta mule !» Alors Phrasie se mettait à rire. Sifroid riait également. Et chaque fois depuis 30 ans, les choses s'arrangeaient ainsi. Car elle était boiteuse, et boiteuse cruellement, la Phrasie. Ce qui, d'ailleurs, n'enlevait rien à ses mérites, ni à la vieille affection que le bon Sifroid gardait pour elle. Avant-hier, comme je me trouvais chez Sifroid, la Phrasie ayant recommencé sa scène, et Sifroid étant en veine de confidence. « Il vaut pourtant commença-t-il, puisque Phrasie fait la méchante, qu'une fois pour toutes je vous raconte comment, si j'épousais Phrasie, malgré qu'elle louche un peu du pied droit, ce fut par la faute d'une mule.
D'une mule ?
Oui, de la mourette. Dieu merci, elle vit encore et mourra de sa belle mort. Bien que voici longtemps, elle ne travaille plus et qu'elle mange la part du prochain. La voilà justement là-bas au coin du pré, qui est pointe jaune, vert et romarin. On pourrait l'appeler en témoignage.
Ne croyez donc pas ces sottises,
interrompit Phrasie, moitié gaie et moitié fâchée. C'est à croire que la folie vient au mari avec la vieillesse. Mais si froid ne se troubla point, et tandis que Phrasie s'éloignait clopinant, active et toujours affairée,
on parle de la malice des filles, on parle de la malice des mules. Mais quand filles et mules s'accordent pour venir à bout d'un pauvre homme, vous pouvez prédire qu'il est perdu. Écoutez plutôt mon histoire.
À 20 ans, je n'étais pas riche et je travaillais pour les autres. Ça aurait pu durer longtemps. Un beau jour, Tisté, mon cousin de mère, qui s'occupait de 20 commerces et voyageait un peu partout, me dit « Cifroi, te voilà exempte du sort. Tu es solide, courageux, l'argent ne te fait pas la guerre. Tu devrais songer au mariage. » « Mais, cousin, d'après le proverbe, pour se marier, il faut être deux. » « T'inquiète pas, Cifroi. Je sais du côté d'Aiglun, dans la montagne, une parente bien dotée, avec qui tu pourrais t'entendre. »
« Bien dotée ?
Plus de 300 écus. »
« Et jolie ?
Demain, à Aiglun, se tient la foire. Viens avec moi. Tu verras la belle et tu décideras si elle te plaît. » Le lendemain, en montant le chemin d'Aiglun, moi, tout de neuf vêtu comme un fifre, nous dépassâmes une fille, le nez en l'air et point pressé, assise sur une mule qui marchait au pas. Tisté se retournant et feignant la surprise.
« Tiens ! » s'écria-t-il.
« Cousine Phrasie ! » Puis il cligna de l'œil et je compris que c'était la belle en question. Nous nous accompagnâmes ainsi jusqu'au village où les parents nous attendaient dans une chambre de l'auberge. Car Tisté, je le sus depuis, avait tout arrangé par avance. Avant que la belle descendît, Tisté me demanda « T'as Gretel ?» Je répondis « Elle m'agré. » En effet, elle m'agréait et je la trouvais vraiment plaisante avec ses cheveux drus, ses yeux vifs et ses 300 écus. Je ne m'aperçus qu'elle boitait que lorsqu'elle quitta l'étrier. Ah, sacrée fille, sacrée mule! Si j'avais vu Phrasie sans la mule, boitant, tenez, comme elle boit à ce moment en nous apportant de quoi boire. Peut-être cela eût-il changé mes idées. Mais quoi, il était déjà trop tard pour se dédire. Je ne pouvais pas faire affront aux gens. Tisté, à l'auberge, dressa les accords et gagna la cravate verte qu'il est usage de donner à ceux par qui sont manigancés les mariages. Du reste, ajouta le bon Cifroi, tandis que sa femme approchait, je n'eus par la suite à en vouloir ni à Tisté ni à la mule. Phrasie, comme chacun le sait, quoique taquine à ses moments, fut pour moi la meilleure des femmes. Puis, entre nous, s'il faut tout dire, sur le chemin d'Aiglun, causant avec elle au pas de sa mule, j'avais commencé à l'aimer un peu. Maintenant, Phrasie, qui sans en avoir l'air avait écouté la fin de l'antienne, souriait, heureuse à son homme, d'aplomb sur un pied, jolie sous les rides, en disposant la nappe blanche et en nous versant le vin frais. 20 mai
1895. Ainsi se termine la nouvelle de Paul Arène, La Mule.